Salut les amis.
Salut, salut Charline.
Alors on reçoit qui?
Romain Slitine.
Ah, il est russe.
Non, hein, il est intellectuel.
Oui, ah, je vois pas le lien, mais. Ah,
et sa spécialité, c'est l'étude des mouvements citoyens.
Ah, évidemment, il va venir avec son djembé, ses cronenbourg et en avant pour Nuit debout.
Mais c'est cliché.
Non, justement, il faut qu'on lance notre mouvement citoyen.
Charline.
Allez, pop de l'enthousiasme.
Charline.
Quoi, vous n'aimez pas l'idée?
Mais si, mais c'est la troisième fois qu'on essaie.
Ah bon, déjà?
Ah oui, tu le sais bien.
Mais on a lancé là, on peut des masses.
Ah, je me rappelle.
Mais oui, mais on n'a pas plus grand chose.
C'est vrai.
Bon, bah si maintenant, monsieur Staline, il nous explique.
Slitine.
Oui, c'est vrai, il est pas russe. Et puis Staline, c'est un autre genre de mouvement citoyen. Mais... Oui.
Non, mais il va nous expliquer les erreurs à ne pas faire.
Mais non, mais ça, on les connaît, ça fait trois fois qu'on les fait.
Ah oui, c'est vrai. Donc, alors, il va nous expliquer ce qu'il faut faire.
Voilà.
Et alors, en parlant d'erreurs, dans les Inrocs, il y a un très beau sujet sur l'expérimentation en politique.
Ah oui, c'est bien, l'expérimentation en politique, ça, c'est l'histoire de la 5ème République.
Oui, elle va tout expliquer mieux.
En fait, c'est de voir comment apprendre de ses erreurs.
Ah, bah oui, à ce rythme-là, Guillaume va être une sommité.
Si
chaque fois qu'il fait une erreur, le gars apprend.
Ah oui, mais nous aussi, on doit s'enrichir de nos échecs.
Allons la fortune,
ouais. Donc, allez, on relance le mouvement, on crée un manifeste. On investit la place de la République.
C'est grand.
Ah oui, il y a un petit square, là, derrière la maison de la radio.
Eh bien, on investit le petit square derrière la maison de la radio.
Oh,
à Stadium Pré, petit square.
Allez, quatrième départ.
Mais non, il va être fier de nous, monsieur Soutine. Hein.
Slitine.
Ah oui, c'est vrai, il n'est pas peintre.
Bah, il n'est pas russe non plus.
Oui, c'est vrai. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez une émission du service public, une émission qui crée de la dette. Et voici les trois informations qui vont contribuer à plomber le déficit public. Les vieux briscards de la politique se pressent chez Macron, qui lui souhaite voir de nouveaux visages, de la société civile notamment, dans sa future majorité potentielle. Alors est-ce qu'En Marche, c'est vraiment un mouvement citoyen?
Il faudrait voir à quoi nous prendre pour des cons, hein. D'accord? Bien que gentil, mais pas con.
Plutôt que de lancer de grandes politiques nationales coûteuses, pourquoi ne pas les tester au niveau local, dans un temps limité, et d'en évaluer les retombées? Le manque d'audace de nos élus, sans doute.
Mais patron, si ça ne marche pas, ce que je voudrais pas dire, mais souvent, ça rate.
Après Londres et Berlin, Paris ouvre samedi une boîte de nuit, ouverte 28 heures d'affilée. Le nightclub vient donc s'ajouter à la liste des lieux ouverts en permanence.
Soyez chouette, une petite fiesta.
Fiesta, mon cul, c'est pas une boîte de nuit ici. Vous êtes dans un hôpital.
Je suis accompagnée de celui qui a déjà réservé son Jéroboam dans le carré VIP, évidemment. C'est Alex Vizorek.
Oui, vous me connaissez. Bonjour, Charlotte Bonnenacker. Et tout à l'heure, en arrivant au studio, je me dis, tiens, il me manque quelque chose. Et vous savez ce que c'est mes lancements. Mais c'est pas grave. Parce que je sais très bien qui sont les gens autour de la table.
De l'impro, amateur d'impro, c'est maintenant.
Il est jeune, il est beau et il a une chemise bleue. C'est Thomas Croisière. Bonjour.
Bonjour, Alex.
Et de quoi allez-vous nous parler?
Je vais vous parler du film de M. Slitine, puisque je parle cinéma.
Ah oui,
évidemment. Vous n'avez pas fait votre chronique à moitié, vous? Non, c'est ça. Poursuivez.
À 17h30, il est jeune, il est beau et il a une chemise bleue. C'est Guillaume Meurice.
Bonjour, Alex Blanc, Charlotte, bonjour à tous. Moi, je me suis intéressé aujourd'hui aux 1 Français sur 3 qui se disent d'accord avec les idées de Marine Le Pen, pour différentes raisons.
Elle a une charmante nièce.
Voilà, la raison dite Vizorek.
Donc vous l'avez écrite, vous?
Ah, moi c'est bossé, attention.
Vous avez écrit, d'accord.
Et 17h40, elle est jeune, elle est belle et elle a une veste bleue. C'est Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour Alex, bonjour tout le monde.
De quoi on parle?
On va parler d'un livre, je vais vous donner un indice pour découvrir le thème.
À mon avis, c'est Jour Barbare, non?
On va voir.
Le surf.
Et voici celui qui préside notre émission aujourd'hui, parce que moi j'ai écrit mon lancement. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po, spécialiste des mouvements citoyens. Vous êtes impliqué dans le collectif Démocratie Ouverte, où vous développez et accompagnez les innovations démocratiques. Autant vous dire que c'est avec lui qu'on va changer le monde aujourd'hui jusqu'à 18h. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Romain Slitine.
Oui. Ah, c'est pas Soutine.
Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes... J'annule tout.
Bonjour Romain Slitine.
Bonjour.
Alors nous sommes très enthousiastes aujourd'hui parce que votre livre est enthousiaste, parce qu'il parle de mouvements citoyens, d'initiatives qui réussissent. Vous avez effectué un tour du monde en 80 innovations démocratiques, donc celles qui
celle qui amorce le début d'une transition démocratique dans de nombreux pays. Votre livre s'intitule « Le coup d'État citoyen, ces initiatives qui réinventent la démocratie », édition La Découverte, avec Elisa Lewis. Je voudrais qu'on commence par un exemple, ils sont tous des exemples concrets bien sûr. En Finlande, par exemple, la plateforme Open Ministry, qui permet au peuple de saisir directement le Parlement pour proposer une loi ou faire des suggestions d'ordre général. Donc, ça fonctionne alors ?
Alors, ça fonctionne. En fait, en Finlande, c'est une plateforme qui s'appelle, donc, comme vous le disiez, Open Ministry, qui permet d'activer un droit qui était un droit théorique au départ. En 2012, la Finlande a proposé dans sa constitution un droit d'initiative citoyenne, mais en fait un droit qui n'est pas utilisé, qui n'est pas activé par les citoyens, il ne sert à rien. Donc très concrètement, cette plateforme permet à tous les citoyens de poster sur cette plateforme leurs idées, de débattre avec les autres citoyens pour arriver à un consensus. Et puis ensuite, une idée qui n'est pas juridiquement valable ne vaut pas grand-chose. Du coup, cette plateforme Open Ministry permet de faire une forme de traducteur juridique pour que les belles idées citoyennes puissent avoir une concrétisation juridique. Et enfin, puisque c'est il y a une condition pour que ce droit soit activé, c'est qu'il y ait 50 000 citoyens finlandais qui puissent, par référendum, approuver cette initiative citoyenne, la plateforme permet, grâce à des réseaux sociaux, grâce à une médiatisation forte, de réunir ou d'aider ou de contribuer à réunir ces 50 000 citoyens pour faire passer des lois. Et donc, il y a eu plus de six lois qui sont passées, en particulier la loi sur le mariage homosexuel, grâce à cette initiative citoyenne et à cette plateforme.
Et donc là, qui est passée comme une lettre à la poste.
Qui est passée
Les larmes et le sang et la sueur.
Et la douleur, parce que le consensus s'était fait avant, parce que la démocratie s'était fait avant que quelqu'un décide de quelque chose un peu par le haut et ensuite le débat se fasse après.
Y a-t-il un 49-3 citoyen ? C'est important pour que les Français soient à l'aise avec ça.
Justement, c'est une proposition.
Alors, c'est une proposition que moi, je trouve très intéressante, évidemment. Alors, le 49-3 citoyen, il existe dans certains pays. Il existe en particulier en Suisse. Il existe également pour partie en Italie. C'est des propositions que font certains candidats. Le 49-3 citoyen, c'est à la fois de pouvoir faire remonter des idées, des propositions de loi, soit au Parlement, soit directement les soumettre à référendum, ou bien 49-3, c'est aussi d'empêcher des lois qui seraient non conformes à la majorité des citoyens et donc qu'il y ait des référendums qui puissent bloquer ou suspendre des lois.
C'est une proposition qu'il y a dans le programme de Benoît Hamon, s'il n'a pas changé d'avis d'ici là, bien sûr.
Exactement, il y tient beaucoup, je pense.
C'est vous qui l'avez un peu inspiré là-dessus ?
Oui, on a été impliqué avec Elisa pendant la primaire et avant pour réfléchir avec lui sur ces questions. Et c'est vrai que c'est un des candidats à la présidentielle qui, puisqu'on a envoyé notre livre à tous les candidats, qui a vraiment réagi avec le plus d'intérêt pour ces sujets et qui a intégré un certain nombre d'idées dans son programme.
Alors on voit dans ce tour du monde avec ses 80 innovations démocratiques, par exemple le cas de l'Islande, où là le peuple a carrément réécrit la constitution. Donc ça veut dire qu'il y a des pays où c'est assez développé, d'autres moins. La France, elle se situe où ? Il y a deux exemples. Il y a l'exemple de Parlement et citoyens qui est au niveau vraiment du sommet de l'État. Et puis il y a le niveau aussi à Saillant, petite ville de la Drôme, où là la prise de conscience s'est déclenchée avec l'histoire d'un supermarché. En France, on en est où à ce niveau-là ?
Alors, en France, d'abord, toutes ces initiatives, ces innovations citoyennes sont globalement dans le monde assez récentes. On parle de choses qui ont 3 ans, 4 ans, 10 ans maximum. Donc, c'est vraiment lié à cette prise de conscience que notre démocratie est à bout de souffle, que la démocratie ne peut pas se résumer à simplement déléguer notre pouvoir une fois tous les 5 ou 6 ans à des représentants et que, entre deux élections, on veut être actif, on veut agir, on veut pouvoir faire entendre véritablement sa voix. Et surtout, faire entendre son pouvoir. Et ça, c'est très important. Où est le pouvoir dans notre démocratie ? Et du coup, où est le pouvoir citoyen là-dedans ? Alors, les exemples, effectivement, au niveau local, il y a Saillant, qui est une petite ville dans la Drôme, qui a complètement inversé la hiérarchie du pouvoir. Et donc, toutes les décisions, pour faire vite, sont prises par les citoyens et les élus sont là pour animer la réflexion.
Parce qu'il y a une liste citoyenne qui s'est présentée.
Il y a une liste citoyenne qui s'est présentée au départ. contre le maire qui avait une pratique un peu autocrate du pouvoir, proche de... Et de l'autre côté...
Proche d'eux ?
Bah, non, mais... Et du coup... et à partir de ce finalement souvent la démocratie ça part aussi par des révoltes de cette révolte citoyenne, ils se sont transformés en une liste citoyenne et ils ont initié une manière complètement révolutionnaire de pratiquer le pouvoir au niveau local. Et vous parliez aussi de parlement et citoyens, c'est vraiment intéressant parce que souvent, et ça on le dit beaucoup dans le livre, on pense que la démocratie, l'activation des citoyens peut se faire au niveau local, mais que les lois etc. ça reste pour des grandes personnes, des adultes responsables qui sont élus et qui peuvent avoir la science infuse. Eh bien, parlement et citoyens, par exemple, ça a marché aussi, ça a été mis en œuvre. Hein, toutes les initiatives qu'on prend dans le livre, c'est des initiatives qui fonctionnent et qui ont été mises en œuvre. Eh bien, ça permet de co-construire la loi sur une plateforme collaborative avec les citoyens.
Et la loi numérique, par exemple, avec Axel Le Maire. Hein.
Exactement.
Et aussi, évidemment, pour les politiciens en panne d'idées, c'est toujours bien pratique, n'est-ce pas? Oui, soyons complets quand même. Romain Slitine est avec nous. Jusqu'à 18h avec Elisa Lewis, il publie Le coup d'État citoyen, édition La Découverte, un tour du monde de 80 innovations démocratiques tout à fait enthousiasmantes. Lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a love embrace. Fire all of your guns and butts and explode into space.
C'était Steppenwolf, Born to be Wild, né pour être sauvage. Une des meilleures chansons que je connais pour faire l'amour.
Ah, pardon, voilà.
J'étais à l'antenne.
Oui.
Elle est sur ma playlist, tout de suite. Elle va pleurer.
C'était donc, on vient d'entendre donc.
La meilleure chanson pour faire l'amour.
Non, mais Juliette Arnaud, je voulais dire.
Je sais très bien qui est autour de la table. Alors autant vous dire, j'ai du mal à les lancer, mais maintenant qu'ils sont là, je peux vous dire, je les garde. Il y a Juliette Arnaud, il y a Guillaume Meurice et il y a Thomas Croisière.
Oui. Pour entourer Romain Slitine qui nous rend visite avec ce livre, Le coup d'État citoyen, ces initiatives qui réinventent la démocratie, avec Elisa Lewis aux éditions de La Découverte. Et donc pour tout ça, il faudrait une 6e République. On va y revenir bien sûr, vous vous rendez bien compte que de politique il sera question, et d'information aussi.
Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train.
Vous mentez. Le journal de presque 17h17.
Ça vous reprend.
C'est un mensonge.
Et ce journal est écrit, et donc nous commençons par les titres.
Manuel Valls annonce qu'il votera Emmanuel Macron.
Oui, triste nouvelle pour Jean-Vincent Placé qui perd sa place de numéro 1 au championnat de France de la girouette.
Pénélope Fillon a été mise en examen comme son mari François Fillon.
Voilà, Patrick et Isabelle Balkany se sentent donc moins seuls à droite.
Il y aura des brèves ?
Oui, et même si vous ne me soutenez pas, je continuerai les brèves.
Comme elles sont écrites, on va en profiter. Et on commence par l'événement politique du jour.
Oui, Manuel Valls a donc annoncé qu'il voterait Macron dès le premier tour. On l'écoute.
J'ai un principe, c'est la loyauté.
Ah, oula, oula, oula. Désolé. Là, c'est un autre extrait. Pardon, là,
c'est parti tout seul, hein, ouais, ça part vite, ces choses-là. Manuel Valls, qui a bien dit qu'il ne ralliait pas En Marche, mais qu'il voterait tout simplement pour Macron.
Et c'est amusant parce qu'il n'a pas toujours senti qu'il avait confiance en Manu.
Porter cette responsabilité, il faut une éducation à la conduite du pouvoir, à la responsabilité, un sens de l'État. Il faut de l'expérience. Il faut de la force et non pas de la légèreté.
Voilà, il va voter pour celui-là. C'est dire si les autres sont terriblement mauvais.
Emmanuel Macron, de son côté, remercie Manuel Valls pour son soutien, mais il assure qu'il ne gouvernera pas forcément avec lui en cas de victoire.
Voilà, merci d'être venu, on vous rappellera.
Passons à l'autre grand candidat de cette élection, à Jean Lassalle.
Oh, il est toujours à fond, Jean Lassalle, hein, probablement au deuxième tour, c'est lui qui le dit. Et donc il en est à parler politique internationale.
Je sais que je tiens dans la tête à M. Trump, à M. Poutine. Parce que moi, j'ai eu affaire aux ours et aux loups et aux cavernes.
Voilà, il est aussi à l'aise avec les ours que Poutine, donc ça va être intéressant la géopolitique dans les prochaines années.
À droite, Pénélope Fillon a été mise en examen à l'issue de son audition par les juges d'instruction.
Mais oui, on ne sait pas combien de pages est constitué le procès-verbal, mais vu ses tarifs, ça doit valoir une petite fortune.
François Fillon, de son côté, a annoncé que s'il est élu, il va créer une commission sur la moralisation de la vie publique.
Voilà, et il a le soutien de Lance Armstrong qui, je vous le rappelle, voulait travailler pour la lutte antidopage.
Santé, justement, selon une étude effectuée sur 3 décennies, plus les enfants ont du plomb dans le sang, plus leur QI diminue.
Ah, et pour le plomb dans l'aile ? C'est parce que je m'inquiète pour le petit Benoît Hamon. Donc éventuellement...
Une agence de voyage maintenant qui va proposer de visiter la carcasse du Titanic en sous-marin.
Voilà, et si vous n'avez pas le moyen, allez au QG de campagne de François Fillon. C'est un petit peu la même sensation.
Sport, la France a été battue par l'Espagne hier soir en match amical.
Oui, ah, on m'a dit que Manuel Valls annonce son soutien à l'Espagne. Donc,
Et les brèves.
Oui, le bracelet fertilité débarque en France. Oui.
Attention Juliette, il s'agit d'un bracelet qui permet aux femmes de connaître le meilleur moment pour tomber enceinte.
Alors que tout le monde le sait que le meilleur moment, c'est quand elles ont trop bu.
Et la dernière
La dernière terrible histoire à Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen. Une femme surprend son conjoint en plein acte sexuel avec une poule.
Et le procès s'est déroulé hier.
Oui, le procureur de la République a dit... Il s'y intéressait de près. Il y a deux témoins directs, la femme et la fille. Et je ne vais pas entrer dans les détails du dossier, mais il y a eu des constatations sur le gallinacé.
Ah, et la peine ?
Alors, l'avocat de la conjointe demande pour sa cliente le versement de 1000 euros de dommages et intérêts. Je ne sais pas, peut-être le choc de voir son mari dans une poule, ça vaut 1000 euros. Mais
quant au procureur de la République, elle requiert une peine de 3 mois d'emprisonnement ferme pour que le prévenu comprenne la gravité des faits.
Oui, s'il passe 3 mois en prison, c'est surtout qu'il va comprendre la souffrance de la poule.
Romain Slitine est avec nous. On va aborder ce premier sujet avec Manuel Valls qui vient de se mettre... plus ou moins en marche, en annonçant son vote quand même. Le mouvement citoyen anti-système d'Emmanuel Macron compte une bonne vingtaine de ministres et anciens ministres parmi ses soutiens. Voilà, donc, que dire de plus ? C'est beau, c'est frais, c'est citoyen, c'est les choristes.
C'est le père Emmanuel.
Alors Romain Slitine, qu'est-ce que c'est En Marche, vous qui êtes spécialiste des mouvements citoyens, est-ce que c'est un parti politique traditionnel déguisé en mouvement citoyen ou inspiré par, ou un mouvement citoyen organisé comme un parti traditionnel ou inspiré par, bref, quelle est la part de parti, quelle est la part de mouvement citoyen dans En Marche ?
Alors, je vais dire ce que je pense personnellement. Je pense que c'est un peu une forme de récupération. Un peu comme le Canada Dry des mouvements citoyens. Ça a un peu le goût, la couleur. Mais Il n'y a pas l'alcool dedans. Et c'est vrai embêtant, c'est pour ça que Canada Dry n'a pas continué longtemps.
Donc ça n'est pas très enivrant.
Mais pour être plus sérieux, je pense qu'il y a beaucoup d'intuition de la part d'Emmanuel Macron, qui est quelqu'un de très intelligent, qui arrive à récupérer l'attente des citoyens très forte pour plus de participation, plus d'implication. Quand je regarde ce qui se passe en marche, j'ai des amis là-bas, il y a des choses intéressantes.
Ça doit être dur pour
sortez immédiatement.
Mais c'est vrai que sur le renouvellement d'un parti aujourd'hui, pourquoi ils sont à bout de souffle, c'est un, parce que finalement les candidats c'est toujours les mêmes, ils sont choisis de manière assez opaque. Deuxièmement, parce que il n'y a pas tellement d'idées nouvelles et que les programmes sont faits de haut en bas. Et en fait, En Marche dit que à la fois il va renouveler la classe politique et en partie il le fait. En tout cas, il l'annonce en disant que il a fait un appel à candidature de 14 000 personnes qui ont répondu. Donc ça, c'est intéressant. Mais après, c'est l'opacité totale pour savoir, dans ces 14 000 qui ont postulé, ça vient d'en haut. C'est-à-dire que c'est une commission de 7-9 personnes qui décide, selon des critères assez opaques, qui va décider. Donc je ne pense pas qu'il y a vraiment un renouvellement de la classe politique véritable et la transparence là-dessus.
Mais il y a une amorce de transition, parce que s'il y a des nouveaux visages et des gens qui se sont simplement inscrits puis qui sont choisis, qui seront peut-être investis pour les législatives, etc., est-ce qu'il n'y a quand même pas une amorce, une volonté ?
Je pense qu'il y a une... Il faut vraiment voir la réalité des faits. Pour l'instant, j'ai rien vu, puisqu'ils ont reculé sur le fait de dire on va annoncer les candidatures. Ils reculent, ils reculent. Et donc, pour l'instant, on ne sait
comment veux-tu
qui vont être les candidats. Donc, pour moi, je pense qu'il y a quand même une attente très forte de transparence et je ne la vois pas en particulier sur cette expérience. Donc, je vois quand même comme si on parle beaucoup, il y a beaucoup de promesses de rénovation citoyenne et démocratique et dans la pratique, c'est assez faible.
Vraiment. Dans les mouvements citoyens, c'est quoi le rapport au chef ? Parce que clairement, ici, on a Macron. Mais non, mais c'est vrai, les Français aiment bien ça quand même.
Ils aiment bien ça. Et d'autres personnes comme Benoît Hamon disent, je revendique le fait de ne pas être un homme providentiel. Et du coup, c'est vrai que...
Après, Ça y réussit bien pour l'instant.
Il y a cette attente-là forte de dire, contradictoire en fait, avec à la fois on veut pouvoir intervenir, on veut pouvoir avoir du poids, et si on ne nous écoute pas, on ne nous entend pas, on ne nous représente pas, hein, tous les mouvements depuis le 15 mai, le mouvement Nuit Debout, etc., qui disent ça très fortement. Et de l'autre côté, on a encore une fascination un peu miraculeuse pour un chef. Et ça, c'est vrai que c'est la contradiction dans laquelle on est aujourd'hui. Et l'avenir va dire quelle voie on va prendre.
Et donc, pour conclure, on peut dire que c'est un hybride. C'est-à-dire un mouvement citoyen, ou semblant de mouvement citoyen très inspiré en tout cas, et la figure du chef, du leader. Donc il y a un mix des deux. C'est une voiture hybride en fait.
C'est une voiture
En Marche,
hybride.
En voiture hybride. Ce sera la conclusion de Romain Slitine sur France Inter en compagnie de... Alors là c'est en bateau.
Oula,
Thomas Croisière.
C'est en bateau, oui.
Oui.
Bonjour Romain Slitine.
Bonjour Thomas.
J'imagine que vous me connaissez, donc Thomas Croisière, organisateur de soirées privées, vous savez, communion, bar mitzvah, mariage, embarqué pour un océan de rire avec Thomas Croisière, réservation 01 45 24 20 20. Je préfère vous le dire tout de suite, je n'ai pas vu votre film Le coup d'état citoyen, ces initiatives qui réinventent la démocratie.
Oula, Thomas, parce que c'est pas un film, c'est un livre.
Ah, et il a été adapté au cinéma ?
Bientôt.
Bon, parce que non, Lolita, Le nom de la rose, Le Seigneur des Anneaux, tous les plus grands livres ont été adaptés.
Oui, 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 oui.
Même 50 nuances degrés. C'est dire si votre livre ne doit pas être terrible. Donc, bon, puisque manifestement vous n'entendez rien au cinéma, je ne vous demanderai pas quel réalisateur new-yorkais vient de l'espace. Alors, à la différence de votre livre, je vais m'adapter et vous parler de Corporate, film qui parle de l'entreprise. Pas le vaisseau spatial dans lequel on explore l'espace. Frontière de l'infini, mais celle où on travaille au quotidien. Alors Charline, vous allez me dire, mais il sort la semaine prochaine. Pourquoi ne pas en parler la semaine prochaine ?
Il sort la semaine prochaine, alors pourquoi pas en parler la semaine prochaine ?
Mais parce que je ne suis toujours pas réinvité la semaine prochaine. Et que je lis très clairement dans votre stratégie RH, vous créez un climat d'insécurité chez vos chroniqueurs. Alors bien sûr, vous construisez autour des piliers de votre entreprise. Et je ne parle pas là des piliers de barre comme Juliette Arnault, mais en même temps, vous les maintenez sous pression en leur disant... T'étais un peu en dessous cette semaine, Guillaume. Si tu continues comme ça, je te remplace par Croisière. Ou, comment ça, Alex? Tu veux une augmentation? Mais tu sais combien il prend, Croisière, pour sa chronique? Rien. Il paye pour faire la promo de ses formules dîner-spectacle. Alors, comme disent les vitriers, tiens-toi à carreau. Oui, c'est pas votre meilleure, celle-là, Charline. Et évidemment, vous allez me dire, Thomas, Vous êtes là pour nous parler de cinéma, pas pour vous plaindre de vos conditions de travail.
Bah, Thomas, vous êtes là pour nous parler de
Arrêtez
cinéma.
Arrêtez de répéter ce que vous dites, ça ne sert à rien. C'est justement le sujet de Corporate. Son réalisateur, Nicolas Silol, qui n'est pas Silol, nous plonge dans les méandres du management moderne. Son pitch, le sujet, pas la brioche, c'est l'histoire d'Emily, alias la killeuse, responsable des ressources humaines, qui utilise des méthodes de management à la limite du harcèlement pour se débarrasser des salariés gênants sans les licencier. Malheureusement, un de ses salariés se suicide. Qui est responsable et surtout, qui va payer? La comédienne Céline Salette justifie à elle seule d'acheter un billet pour aller voir le film. En plus, si vous avez été poussé à la démission dernièrement, non seulement vous avez du temps, mais vous payez tarif réduit. Dès le départ, le film annonce la couleur, les personnages sont fictifs, mais les méthodes de management sont réelles. Ces méthodes faites pour optimiser les chiffres et pessimiser les hommes. Certains finissant par faire des burn-out, qui, contrairement à ce que leur nom indique, ne sont pas des testicules estivales, évidemment. La trajectoire d'Emily pose l'éternel sujet de la servitude volontaire, et cette fameuse question, est-ce que pendant la Seconde Guerre mondiale, vous auriez accepté de conduire les trains? J'ai envie de vous répondre, encore eût-il fallu avoir son permis locomotive. À l'heure où nous jouons tous les indignés par les bassesses du débat politique sur nos murs Facebook, où nous faisons les effarouchés par la brutalité du libéralisme sur nos fils Twitter, Corporate pose la question de la responsabilité. Or, dans la stratégie du coup de pied au cul, il faut toujours s'interroger sur la responsabilité des fessiers. Alors, plutôt que de vagir, commençons à agir. Et comme disait Dalaï, le frère de Serge et Bernard, si vous pensez que vous êtes trop petit pour changer quelque chose, essayez donc de dormir avec un moustique dans votre chambre.
Oui. Oh. C'était qui le réalisateur new-yorkais qui venait de l'espace?
Ah, mais c'est Woody Allen.
Oh, évidemment.
Évidemment. Bah oui. Vous êtes sur France Inter. Romain Schlittine, surtout restez, parce que je vous rappelle qu'on doit changer le monde. Vous êtes sur France Inter. Musique, j'ai de l'or, ça tombe bien. Programmation Jacques. Musicale, Djoubaka.
J'ai de l'or, j'ai de l'or.
D'or pour cette émission, donc on va s'arrêter là.
Hommage à Jacques Delors, bien évidemment.
High Cowboy sur France Inter, en compagnie de Romain Schlittine qui publie Le coup d'état citoyen, oui. Oh, ça me s'emballe.
J'ai un orgasme en direct. Ouais, c'est dehors, c'est dehors.
C'est gênant.
Ouais,
c'est gênant.
Là, je pense que j'ai pas été très objective. C'est sorti d'un coup. C'est le cri du cœur.
C'est la première fois cette année en plus.
Ces initiatives qui réinventent la démocratie avec Elisa Lewis aux éditions de La Découverte. Et avant de reparler avec vous, politique, société, Romain Schlittine, nous allons passer par Guillaume Meurice.
Oui, et bah écoutez, nous sommes à quelques semaines du premier tour de la présidentielle et il y a énormément de Français qui ne savent pas encore pour qui voter. La question qui se pose aujourd'hui, c'est donc qui sera opposé à Jean Lassalle au second tour. Parce que c'est vrai, on le sait, bah, il a dit, hein, pour lui c'est acté, il est à 98% d'intention de vote selon un sondage Jean Lassalle pour Marijuana Magazine. Alors ça aurait pu être Macron, hein, mais il a pris un sale coup ce matin avec le soutien de Manuel Valls. Ça a gagné une élection avec Valls, hein, autant courir un 400 mètres haies avec Gérard Larcher dans son sac à dos. Donc lui, Jean Lassalle, il dit qu'il sera opposé à Marine Le Pen au second tour. Et moi, je dis pourquoi pas. Il y a un autre sondage qui confirme qu'un Français sur trois serait d'accord avec les idées de Marine Le Pen. Je suis donc allé à la rencontre de ce Français sur trois ce matin dans les rues de Paris. Alors on commence avec la première raison de voter Marine Le Pen.
Le danger à l'heure actuelle, ce n'est pas de savoir si on va payer une burqa en francs ou en euros, mais c'est de savoir qu'on va devoir s'en payer une. Hein.
Avez-vous pensé, vous avez voilà. peur de ça?
C'est l'islam. Oui. Il ne faut pas se voiler la face. On va droit dans le mur. Hein.
Voilà, on va droit dans le mur si on se voile la face avec une burqa. C'est logique. N'en déplaise aux islamo-gauchistes hein, autour de cette table, je vous ai vu. Je rappelle à toute fin utile à Juliette Arnault que les islamistes interdisent l'alcool. Hein. Donc continuez à ne pas voter Marine Le Pen, ça va vous faire tout bizarre. Hein. Les cocktails Vittel Badois, ça va vous calmer. Et c'est pas tout, parce que dans le village de cette dame, de sa fille plus exactement, il y a quoi?
Il y a une école qui ne sert plus à rien. Ils ont fait venir 25 célibataires, des gars qui viennent tout seuls, qui ont des téléphones portables, qui soi-disant sont des réfugiés, qui sont en pleine forme. Qu'on arrête avec ça.
Mais alors vous pensez qu'ils viennent pour quoi?
Eh bien qu'ils viennent pour installer, pour conquérir l'Occident.
Vous croyez vraiment?
Oui, bah regardez l'histoire, reprenez Poitiers, reprenez tout ça. Hein,
vous pensez qu'on est dans la même situation que...
Absolument.
Que sous Charles Martel?
Absolument.
Ah ah! Et Charles Martel, il est plus là en plus, on est bien dans la merde. Aujourd'hui, c'est Philippe de Villiers. Hein. Et 13 siècles de consanguinité, ça use, moi je vous le dis. Charles Martel qui a d'ailleurs prétendument repoussé les Arabes à Poitiers, puisque la vérité, c'est plutôt que les Arabes sont allés au Futuroscope et ont trouvé ça tout pourri et se sont barrés. Alors, elle a peur, elle vote Le Pen, mais elle reconnaît des qualités à ce gouvernement.
Tout n'est pas négatif dans l'ordre, et pourtant Dieu sait que j'aime pas la gauche, mais le meilleur ministre de la Défense qu'on ait jamais eu, c'est M. Le Drian, et ils ont remis un régime.
Jean-Yves Le Drian, il a vendu beaucoup d'avions au Qatar, par exemple.
Oui, peut-être, il a vendu beaucoup d'avions au Qatar, mais ils savent très bien qu'il faut renforcer l'armée.
Ah, voilà, l'armée du Qatar, hein, essentiellement, qui finance donc les islamistes à qui l'on fait la guerre en envoyant l'armée française. Vous voyez, vive le ministère de la Défense, hein, qu'on appelle aussi le business plan de Serge Dassault. Alors, cette dame, elle n'est pas de gauche, ça on l'a compris, mais elle faisait quand même la part des choses. Alors, en revanche, j'ai rencontré un monsieur qui n'est pas de gauche, mais alors pas du tout, et depuis très longtemps, au point de péter des télés quand il voyait qui?
C'est avec Georges Marchais. Deux télés, j'ai pété à cause de ça.
Et comment vous avez fait?
Ma femme, elle ne met plus la télé en mangeant plus rien. Parce que, il m'énerve.
Et comment vous avez fait pour la casser?
Avec le fer à repasser.
Vous balancez dans la télé?
Oui, dans la télé, direct. Allez, hop. Oh, arrêtez les conneries.
Il ne faut pas balancer des fers à repasser dans la télé.
Bah oui, bah, je m'en fous, moi. La télé, j'ai cassé.
Et qu'est-ce qu'il avait dit, Georges Marchais, pour vous énerver à ce point-là?
Il y a une connerie qu'il racontait. Parce que moi, je suis de la droite.
Hein. Oui, bah ça, on avait compris. Hein, on avait compris. Alors, j'ai pas osé lui parler de Mélenchon parce que ma passion, c'est pas vraiment de me prendre des fers à repasser dans la gueule. Mais il y a un ras-le-bol, hein, c'est vrai. Par exemple, ce monsieur, pourquoi il va voter Le Pen?
Parce que on a tout essayé et des promesses, en veux-tu, en voilà. Et puis, en finale, bah, il n'y a rien.
Mais alors, du coup, Marine Le Pen aussi, elle fait des promesses finalement. Pourquoi elle les tiendrait, elle, les siennes?
Bah, on verra. Ça, c'est ce qu'on appelle un procès d'intention.
Qu'est-ce qui vous plaît dans son programme, ça?
Bah, le changement, qu'est-ce que vous voulez, il y a...
La sortie de l'euro, c'est qu'elle veut sortir de l'euro?
Ça va nous coûter un bras, surtout si il faut revenir au franc. Non, non, non.
Ah bon, non. Bah alors vous n'êtes pas du tout d'accord avec le programme de Marine Le Pen, du coup?
Bah non.
Ah bah voyez. Mais alors pourquoi vous allez voter pour elle?
Je vous dis pour le changement.
Ah oui, d'accord. Sa passion, c'est essentiellement le changement. Voilà, bonne nouvelle pour les fans de changement. Alors, il y a mieux que les gens qui votent Le Pen sans être d'accord avec elle. Il y a ceux qui votent Le Pen alors qu'ils n'ont pas franchement intérêt à le faire du tout.
Mais moi, je vote Le Pen depuis plusieurs années. Hein.
Mais vous êtes de quelle origine?
Moi, je suis français, mais je suis d'origine mauricienne, l'île Maurice.
Ah, vous avez la nationalité française maintenant?
Ouais. En fait, depuis 31 ans. Hein.
Mais alors, avec Marine Le Pen, vous ne l'auriez pas eu, par exemple?
Ben, il faut essayer tout le monde, parce que, comme je vous dis, l'autre, il est pourri, l'autre, il est corrompu, l'autre, il faut l'essayer.
Mais du coup, ça veut dire que vous allez voter pour quelqu'un qui ne vous aurait pas laissé accéder à la nationalité française?
Bon, Non.
Si, je te jure que si. Hein. On dirait un diabétique qui vote pour du caramel. Hein. C'est compliqué à tenir comme position. Mais il y a encore mieux, il y a le Français d'origine tunisienne qui pense que la solution, c'est...
Faut faire virer les Asiatiques. C'est les Asiatiques qui ont foutu la merde.
Bon, est-ce que c'est pas du racisme anti-asiatique?
Non, c'est pas du racisme.
Si, sans dé, hein, on reconnaît. Et c'est ça qui prouve d'ailleurs l'égalité parfaite entre tous les êtres humains de la planète, mettant un coup final à toute justification du racisme. La connerie humaine est bel et bien universelle.
Merci Guillaume Meurice-Thorez. Romain Sletine, si ces gens montent un mouvement citoyen, on est un peu mal quand même. Hein.
On est mal, mais je pense qu'en en fait, il ne faut pas avoir peur non plus. Parce que, par exemple, on dit souvent, mais si on donnait la parole aux citoyens tout le temps, ils voudraient remettre la peine de mort. Hein, ça, c'est pour faire le lien.
Ouais.
Moi, je suis assez convaincu du contraire quand on voit les espaces démocratiques qui sont en train de se développer. Parce que c'est pas pareil de construire enfin, de construire une démocratie avec les citoyens et de faire une démocratie juste avec les sondages. Donc si on demande aujourd'hui, je ne sais pas à combien, on est peut-être à encore une majorité de gens qui veulent la peine de mort, ou j'espère un peu moins, mais c'est vrai qu'avec la délibération, avec l'éclairage d'experts, avec du temps, et des moyens pour avoir ce temps de délibération entre citoyens.
Avec on la arrive, discussion, ouais.
On a, ouais. Avec la discussion, on arrive à des positions différentes et importantes. Et, par exemple, dans les cours d'assises, eh bien, les juridictions, les décisions les plus importantes pour les crimes, pour les viols, etc., sont prises par des citoyens. Mm-hmm. Mais ça ne se fait pas comme ça en leur demandant juste leur avis. Ça se fait dans un processus, finalement, de discussion, d'échange. Et c'est ça qui fait toute la différence. Donc, faut pas avoir peur, à mon avis, d'y aller, d'aller vers plus de démocratie si on se donne les moyens de cette nouvelle forme de démocratie, c'est ça qui est essentiel.
Et de l'organiser donc. L'application du revenu universel, eh bien la Finlande a choisi de la tester sur une population et une durée limitée. C'est une expérience qui serait évaluée avant d'être mise en place ou pas. Pour ça, il faut des hommes politiques ouverts aux expériences, à l'expérimentation, surtout qui n'ont pas peur de se tromper ou encore qui ne se prennent pas pour Dieu lorsqu'il a créé le monde.
Loi 2129. Quand on plonge un corps dans la baignoire, le téléphone sonne. 2125. Une tartine de confiture tombe toujours du côté de la confiture. Sinon, c'est que la confiture a été mise du mauvais côté. Loi 2126. On ne casse la vaisselle qu'après l'avoir lavée. Loi 2231. Un emmerdement n'arrive jamais seul.
C'est un extrait du tout nouveau testament de Jaco van Dormael.
Mais également de la vie de Juliette Arnaud.
C'est vrai.
Qui a cette voix-là après les soirées.
Alors, c'est vrai que donc c'est un article qui est paru dans Les Inrocs, qui est paru ce matin. Une expérience donc, qui est faite pendant 2 ans. 2000 chômeurs de 25 à 58 ans, bénéficiant déjà du revenu minimum, sont tirés au sort et toucheront 560 euros par mois sans qu'il ne leur soit rien demandé en contrepartie, ni même de chercher un travail. C'est donc une expérience limitée dans le temps, limitée sur une population. Généralement, chez nous, enfin, en tout cas vu de France, quand une expérimentation pour un politique est un échec, c'est vécu quasiment comme un référendum. Est-ce qu'il est là aussi le frein ? C'est le politique qui n'ose pas toucher à l'expérimentation parce que s'il est confronté à un échec, c'est son échec personnel et c'est la porte ?
Oui, parce que comme il y a une telle personnalisation de la vie politique, comme les responsables politiques disent, je vais... Enfin, il y a deux temps toujours, hein, c'est pendant la campagne électorale, dit « je vais transformer vos vies, j'ai les solutions, etc. » Et dans l'exercice du pouvoir, ils le savent très bien, c'est beaucoup plus compliqué. C'est ça qui fait la crise. Alors que des responsables politiques qui diraient « je vais expérimenter avec vous, je n'ai pas la science infuse, mais j'ai des axes clairs de là où on veut aller ensemble et expérimentons », je pense que c'est vraiment la nouvelle façon de faire de la politique. Et aujourd'hui, c'est la grande différence avec il y a quelques années. Parce que, très honnêtement, tous les responsables politiques qu'on a rencontrés, on ne peut pas dire qu'ils sont tous complètement inconscients du rejet qu'ils peuvent provoquer ou qu'ils ne cherchent pas de solution. Ils en cherchent, mais souvent ils se disent, mais en fait, la question c'est comment je fais. Et la bonne nouvelle, vraiment, hein, et la bonne nouvelle, et la plupart sont de bonne foi par rapport à ça, la bonne nouvelle c'est que si on combine, pour aller très vite, on en parlait avec Guillaume à l'instant, mais si on combine la puissance d'Internet et du coup pour organiser ça de manière, pour à la fois faire remonter ses idées, pour les organiser, pour débattre, si on combine ça, vous en parlez à l'instant, avec du tirage au sort pour justement représenter de manière un peu différente la population et organiser des lieux de démocratie avec ces assemblées tirées au sort, je pense que on peut combiner ces deux grandes tendances là
et ça permet une évaluation.
Et donc ça là, permet une évaluation, ça permet d'expérimenter, ça permet de se tromper, ça permet aussi aux responsables politiques de ne pas être seuls, de ne pas se sentir seuls et de ne pas faire croire qu'ils ont toutes les solutions et que du coup ils sont jugés. Finalement, on reste du coup des citoyens, si on laisse les citoyens passifs où ils peuvent être simplement soit votés, soit sanctionnés, c'est très faible. C'est très faible à l'heure où on peut faire des encyclopédies de manière collaborative comme Wikipédia qui contiennent moins d'erreurs que des encyclopédies fermées, etc. Donc il faut vraiment aller vers toutes ces innovations et ces expérimentations démocratiques. C'est la seule possibilité.
Sur ces expérimentations, est-ce qu'on risque pas d'avoir le problème de plein d'expérimentations qui fait que quand on sait qu'on est observé, on agit différemment? C'est prouvé que même les atomes, ça leur arrive quand on sait quand ils ont conscience, enfin, si tant est qu'ils ont une conscience qu'ils sont observés, ça change les résultats. Comme quand on a la boîte médiamétrie, on se dit tiens, on va regarder Arte plus souvent pour avoir l'air plus intelligent.
Il y a des biais, enfin bien sûr, après ça, il y a des biais scientifiques, etc., qui font que la généralisation doit anticiper ce type de problématique. Ouais. Mais néanmoins, la démarche de se dire on fait avec et on expérimente pour généraliser, ça pour moi c'est un peu la seule voie d'avenir. En prenant, il y aura de toute manière en démocratie, en démocratie, il n'y a pas, et c'est peut-être la pire des choses à penser, il n'y a pas perfection. Donc il faut absolument pas croire à la perfection.
C'est un processus qui demande de la patience.
Et malheureusement, on vend parfois un peu trop de pensée magique
et de rapidité. C'est d'ailleurs un exemple, la Finlande, qui est dans votre livre Le coup d'État citoyen aux éditions La Découverte. De lecture également, il y en a question avec Juliette Arnaud. Juliette.
Oui. Alors, avant toute chose, je tiens à préciser, mais alors tout de suite, que je ne connais pas personnellement l'auteur du livre que je tiens dans mes mains, ou Liam Finnegan. Que donc, de conflits d'intérêts, il n'y en a pas. Hein. Hashtag vie politique tous dépourris, hashtag la bise à Macron. Mais que j'aimerais bien qu'il y en ait à l'avenir de l'intérêt de William, pour moi. Hein. Voir la bise, voir plus que la bise, on peut en discuter. Je ne suis pas pressée, mais si quand même, organisons-nous William, life is a bitch and then you die. Ceci étant posé, le livre s'appelle Jour barbare, et le thème du livre, c'est une vie de surf. Alors je vous entends déjà miauler, du surf, ah bah oui, les clichés ont la vie dure, le surf c'est les Beach Boys, le monoï, les cheveux blonds décolorés, des grosses feignasses frimeuses à la brise de Nice, jalousie viscérale des autres mecs, les filles qui font la queue à la plage.
Sauf le combi Volkswagen.
Tout à fait. Et le combi, oui. Sauf que mon William à moi est prix Pulitzer. Alors tu te le ramasses ton cliché, tu te le roules fin et tu chantes l'hymne à la joie. Prix Pulitzer 2016, parce que William, qui est né en 1952, quand je vous dis qu'on n'a pas la vie tous les deux, William est journaliste reporter de guerre pour le New Yorker. Mais ce qu'il raconte là, dans ce livre-là, dans Jour barbare, c'est sa vie de surfeur. Alors il a une enfance en Californie, pour le surf ça aide. Hein. Moi je suis née à Saint-Etienne, au mieux je sais fabriquer un terril. Ensuite, il débarque avec ses parents à Hawaï. Là, par accident, il se retrouve dans un collège hyper mélangé, c'est-à-dire avec plein de gens qu'on appelle les natifs, c'est-à-dire des Hawaïens pour de vrai et pas des Américains. Des gens d'autres couleurs. Donc, et puis il va se retrouver surtout à l'eau avec eux, à pratiquer du surf. Et là, il a une espèce de sentiment diffus qu'on pourrait traduire par aspirer à quelque chose de plus grand que soi-même. Pourquoi ? Parce que le ventre de la vague, et je le cite, tout le monde parlait d'y rester piégé, mais la glisse au cœur de ces tubes fut pour moi une révélation. Ces incursions étaient toujours trop brèves, certes, mais leur mystère restait intense, addictif. On avait l'impression d'avoir traversé le miroir l'espace d'un instant et on mourait d'envie d'y retourner. De là, il entreprend, au lieu de faire ses études, comme ses co-religionnaires, un tour du monde à la recherche de la vague parfaite. Le Pacifique Sud, l'Australie, Bali, l'Afrique du Sud, etc., etc. Tout ça dans des conditions de voyage autour du monde archi-spartiates, tout en restant quand même privilégié, puisqu'américain, dans la plupart des pays qu'il découvre. Pour autant, régulièrement, William, est traversé par l'idée de gâcher sa vie. Il dit « J'ai la sensation d'errer sur la face cachée de la Lune ». Mais comme il est un grand lecteur, alors il surfe, mais il lit beaucoup aussi. Et puis il écrit d'abord son journal, grâce auquel ce livre est aussi précis et incroyablement documenté. Et puis quelques romans. Le moment de sa deuxième révélation, c'est quand il arrive à Cape Town, où pour gagner sa vie, il va enseigner pendant 18 mois, lui, américain, blanc, à des élèves noirs super défavorisés. C'est le moment où il va se faire rattraper par le vrai monde hors de la vague parfaite. Et il dit, on n'échappe tout bonnement pas à la politique. Et politiquement, je ne trouvais aucun terrain d'entente avec les surfeurs que je rencontrais. De là, il devient journaliste au New Yorker, reporter de guerre. Alors un déhic de cette affaire d'obsession de la vague parfaite survient au Fidji, où il est avec son compagnon de voyage, Brian, qui est un autre écrivain. Il découvre une petite île qui s'appelle l'île de Tavaroa, avec une gauche parfaite. Il décide de garder le secret. Parce que c'est ça qu'ils font les surfeurs, les purs et durs, ils gardent les secrets, ils ne le révèlent pas à tout le monde pour pouvoir un peu garder un côté un peu mythique. Quelques années après, il apprend qu'il y a un hôtel qui vient de s'installer dans la jungle face à la vague. Le contrat social du surf est brisé. C'est le moment où le surf devient un phénomène marketing mondial. Vous l'avez compris, William est un pur et dur. Il ne pratique pas le surf pour la compète, pas pour frimer, c'est intérieur. Oui, mais tout le monde n'est pas un aventurier surfeur, alors pourquoi est-ce qu'on va s'embêter à lire ce livre? Parce que cette obsession-là, elle a une gueule folle. Parce que William s'emploie à la communiquer, et puis pour l'enfant qu'il a été sur la couverture. Ah, cette photo. Le regard de cet adolescent. Quoi? On est à la radio, alors vous le voyez pas? Eh ben, je sais pas, sortez! Allez chercher dans les librairies! Hein? Mais alors, par pitié, gardez simplement dans votre petite tête que William est à moi. Merci. Bisous. Merci.
Juliette Arnaud, merci. Rappelez-nous les références de l'ouvrage.
Alors, ça s'appelle Jour barbare. C'est écrit par William à moi, Finnegan. C'est aux éditions du Sous-sol.
Et on a compris, vous aviez kiffé la vibe.
Oh, tellement.
Effectivement. Alors, de Tour du Monde, il en était question. Et Romain Slitine, vous avez aussi fait un tour du monde pendant 2 ans pour écrire ce livre, le coup d'État citoyen, et répertorier 80 initiatives démocratiques. On va aborder un troisième sujet de fond qui change le monde aussi avec vous, parce qu'on en profite, vous êtes là. Cette grande première pour la France, samedi, une boîte de nuit
qui yeah
ouvre 28 heures d'affilée. Ah, et ça nous manquait ça, non? Ça manquait à la France, ça manquait beaucoup à la France. On était à la ramasse derrière Londres et Berlin en la matière, et là, on redevient compétitif.
Salut Francis,
ça mousse.
Oh putain, je suis torcheux, chiffon carpet. Oh, j'ai la tête en sky, les cheveux qui poussent à l'intérieur, grave là.
Là, je suis casquette.
Tu casquette là, oh putain, pourquoi?
Ah ouais, avec Dany hier soir, on s'est mis torchon chiffon carpet. Une soirée de folie, putain, on a donné là. T'es le 106 à la boîte. Putain, 5h du mat, on a donné torchon chiffon carpet.
Ce classique des inconnus, bien sûr. Alors, c'est un collectif de musique électronique qui ouvre cette boîte 28 heures d'affilée, le Night Club, hein, comme on dit.
Ah ben.
Ouvert donc du samedi soir au lundi matin. Romain Slitine, vous êtes un sorteur, vous?
Un sorteur.
C'est
un
clubbeur.
Un
sorteur. Vous voulez dire que je suis has-been?
Non, que ce mot n'existe pas.
Une autre langue que la nôtre.
En Belgique, ça existe.
Merci.
On y revient.
Et la loi Molière.
Ouais.
Bon.
Mais là, je suis avec mes sœurs et mon père, on va y aller.
Ah, donc vous ne pouvez pas, trop vous exprimer là-dessus, peut-être.
Ben voilà, c'est ça.
J'allais justement vous demander vos soirées, vos souvenirs de soirée, combien de temps vous teniez, si vous étiez plutôt à rentrer à 2h ou à 6h du matin.
Ouais, peut-être on peut demander directement à votre père, peut-être.
Quand vous avez fait votre tour du monde, là, coup d'État citoyen, parce que les citoyens qui ont envie de se bouger, d'être actifs, c'est pas les derniers, c'est pas les plus tristes. Vous avez l'occasion,
c'est pour ça qu'il se passe pas grand chose derrière.
Non, mais c'est vrai que tous ces acteurs qui sont très souvent enthousiastes et enthousiasmants, enfin c'est ça qui nous a aussi beaucoup marqué. Effectivement, ça peut durer tard dans la nuit et ils ont pas mal d'énergie qui peuvent aussi.
Voilà, ils sortent à 8h du matin de réunion, ils partent à la concrète et ils dansent jusqu'à midi.
Exactement.
Vous avez testé, vous, Juliette Arnaud, vous êtes arrivé un matin.
Oui, mais j'ai
fraîche.
Pas compris. Moi, j'y suis allée à 11h du matin. Et donc j'avais fait mon petit déjeuner, tout ça, et je suis arrivée et tout le monde dansait beaucoup. Je pense qu'on n'avait pas mangé la même chose.
Vous avez mangé du cake pourtant.
Oui, j'avais mangé du cake.
Mais alors là, c'est marrant, c'est la première fois que ça arrive à Paris. Moi, quand je suis arrivée à Paris depuis la Belgique, ce qui m'a frappée, c'est qu'à 2h du matin, il fallait tout fermer. Alors que c'est vrai qu'en Belgique, nous, on termine à la boulangerie au petit déjeuner à 8h du matin, donc on était très choqués. La fête, c'est aussi quelque chose qui est géré par le politique finalement. Là, il faut qu'il y ait une volonté politique pour nous laisser faire la fête comme ça 28 heures d'affilée.
Ce qui serait intéressant, c'est de savoir comment est venue cette idée. Est-ce que c'était une idée simplement marketing? J'ai pas lu l'article. Ou est-ce que c'était une idée qui...
Non, c'est les citoyens qui
se sont réunis,
qui ont réfléchi ensemble dans un projet de boire de l'alcool.
On est obligé de faire les 28 heures. Est-ce qu'on peut faire un tiers temps? Parce que moi personnellement, ça m'arrange.
Ouais, bien sûr, évidemment. Oui, non, mais c'est un collectif de musique électronique, donc évidemment pour pouvoir diffuser cette musique le plus possible aussi. J'imagine qu'il y a...
Oui, et puis c'est vrai qu'on ne peut pas dire que Paris se caractérise par la volonté de favoriser la vie de nuit et de fête.
Oui,
voilà.
Ce n'est pas
la
Non, puis vous qui aimez la grande chanson Alex Vizorek, oui. C'est Michel Fugain qui va être embêté parce que je me suis levé ce matin, je n'y comprends rien, c'est la fête. Or, si tu n'es pas couché, tu ne peux pas te lever ce matin. Comment va-t-il faire?
C'est vrai. Cette volonté d'aller un peu hors du temps. Donc, ça commence samedi à Paris et nous ne serons plus à la traîne derrière Londres et Berlin. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Romain Slitine, une nouvelle corde à votre arc, à moins que vous ayez déjà fait du théâtre.
Attention.
Mais c'est bon, vous savez, c'est à la bonne franquette.
Hein. Attention, je vous envoie le texte parce que on a voulu savoir ce qui s'est passé hier soir chez les Valls et chez les Macron. Et le couple Valls, ce sera Juliette et Thomas. Le couple Macron, ce sera Charline et Guillaume, super production. Et vous, Romain Slitine, ben vous bossez chez les deux. C'est ça, j'ai facilité, j'ai fait des économies d'échelle.
Ça va Manu, t'as l'air tout perturbé.
Je ne sais pas ce que je dois faire Anne. Faire parler la raison ou le cœur.
T'as un cœur ?
Bonne réponse.
Allez Manu, te fâche pas tout rouge.
Je suis pas fâché, je suis normal.
Excusez, monsieur reprendra bien un peu de mouton Rothschild ?
Non Nestor, pas de Rothschild. J'en veux pas, non.
Comme monsieur désire.
Oh si tiens, j'ai changé d'avis, servez-moi. Anne, je crois que je vais le soutenir.
Pendant ce temps-là, chez les Macron.
Bon petit macaroné, bon il fait la tête le petit.
Ce que je veux, c'est que notre prochain.
Mais ne crie pas comme ça Manu, c'est juste moi là. Oui, Pipi, tu vas bien, t'as plein de soutien là. T'avais peur d'être isolé comme Robinson sur son île.
Ah bon, Robinson Crusoe, il était guyanais.
Oh, laisse tomber. Bon, tout roule.
Oui, oui, cher En Marche, tout roule.
Excusez, monsieur reprendra bien un peu de chorizo.
Non, 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 il aime pas les produits espagnols.
Non, c'est vrai, tant que j'ai pas le soutien de Manuel Valls.
Lol, ça arrivera jamais ça.
Pendant ce temps chez les Valls.
Le soutenir? Toi, du PS?
Le Drian, il l'a fait. Delanoë, il l'a fait. Colomb, il l'a fait.
C'est vrai qu'il a déjà tant de soutien à gauche, il lui en faut aussi à droite.
Madame, permettez que je ferme la fenêtre, il y a un petit courant d'air.
Non, c'est moi qui ai retourné ma veste.
T'es sûr que ça va lui plaire?
Bien sûr que ça va lui plaire. C'est moi qui lui ai tout appris. Et Macron adore ses enseignants.
Pendant ce temps chez les Macron.
Je t'aime, ma Bribri. Je t'aime.
Moi aussi, mon Mimu.
Tu verras, on y arrivera. Plus de droite ni de gauche.
Dis, depuis tout à l'heure, j'y pense. Valls, il pourrait nous rejoindre, juste pour nous emmerder.
Ah non, 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 non. Si je dis que j'ai pas besoin de ventriloque, c'est pas pour choper une marionnette.
Ah hein. Oh, non, mais je rigole. Tu sais qu'il manque à la belle alliance populaire. Hein.
L'alliance et la popularité.
Et la beauté.
Pendant ce temps, chez les Valls.
C'est décidé. Je vais le rallier.
Non, mais t'avais pas signé un papier pour promettre de soutenir Hamon?
T'as raison. Dans ce cas-là, je n'ai pas le choix. Je refais un 49-3.
Mais Macron a dit qu'il voulait un renouvellement de visage.
Je ferai de la chirurgie esthétique.
Je dois encore avoir le numéro de Cahuzac.
Monsieur, votre plat est froid.
C'est pas grave. La vengeance est un plat qui se mange comme ça.
Super Romain Slitine,
tout le monde était autour.
Thomas Croisière dans le rôle de Manuel Valls, avec cette voix la cinématographique presque. Romain Slitine, merci d'être resté avec nous.
Merci beaucoup.
De nous avoir éclairé sur les mouvements citoyens. Et je rappelle que le coup d'état citoyen, ces initiatives qui réinventent la démocratie, écrit avec Elisa Lewis, est paru aux éditions de La Découverte et répertorie 80 initiatives qui réinventent cette démocratie. Merci à tous autour de cette table. On va se retrouver demain avec Gaëtan Roussel. Et le mot de la fin, je le laisse à l'avis d'un auditeur sur notre émission.
Il faudrait voir à pas nous prendre pour des cons, hein. D'accord ? Bien être gentil, mais pas con.